VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Nouakchott, 17h à Bangui, bienvenue à notre journal. Journée internationale de la femme, le président américain Donald Trump, qui a tenu avant son élection des propos controversés sur les femmes, a fait part mardi dans un tweet de son immense respect pour les femmes et les nombreuses fonctions essentielles à la trame de la société et de l'économie qu'elles occupent. Mais les félicitations du chef de l'exécutif américain ont provoqué des réactions défavorables sur Internet, où les utilisateurs lui ont rappelé ses propos misogynes, les accusations d'agression sexuelle et sa position controversée sur l'avortement pendant la récente campagne présidentielle. Avant le scrutin du 8 novembre, une dizaine de femmes ont accusé publiquement le candidat républicain de gestes constitutifs d'agression sexuelle. Pourtant, Donald Trump a conquis la Maison-Blanche en partie grâce au vote des femmes, qui ont été 42% à voter pour lui, selon les chiffres de sortie des urnes. La Journée internationale de la femme cette année est placée sous le thème de la place des femmes sur le marché du travail. L'occasion aussi de mettre en avant les combats féministes menés un peu partout dans le monde. De faire un état des lieux, Salwa Jafari.
Pour les femmes, le combat est permanent. Droit à l'avortement, droit de conduire, de voter ou tout simplement droit au respect dans des sociétés au développement desquelles elles contribuent, les femmes ont encore du chemin à faire. Les inégalités demeurent. Selon les chiffres de l'Union européenne, les femmes gagnent en moyenne 23% au moins que les hommes. La violence faite aux femmes perdure elle aussi. L'Organisation mondiale de la santé estime que le pourcentage de femmes victimes d'abus physiques ou sexuels commis par un membre de la famille varie entre 15% au Japon et 71% en Éthiopie rurale. L'ONU a choisi cette année comme thème la place des femmes dans le monde du travail et évoque une planète dans laquelle la moitié des femmes aura un emploi d'ici 2030. Et pour la première fois, le 8 mars, les femmes ont décidé de se mobiliser de manière coordonnée dans 50 pays et dans les 5 continents pour célébrer un jour sans femmes. Une grève planétaire pour mettre fin à la violence sociale, légale, politique, psychologique et verbale que les femmes subissent sous différentes latitudes.
Crise migratoire maintenant, une vingtaine de migrants d'Afrique subsaharienne ont été tués par des passeurs sur une plage en Libye après avoir refusé d'embarquer à bord d'un bateau pour rejoindre l'Europe. C'est ce qu'annonce ce mercredi une source sécuritaire. Les migrants clandestins qui s'apprêtaient à tenter la traversée de la Méditerranée à destination de l'Europe ont refusé de monter à bord de l'embarcation en raison du mauvais temps, a indiqué cette source sous couvert d'anonymat. Le Croissant Rouge libyen a confirmé le drame qui a eu lieu le week-end dernier sur la plage de Sabratha. L'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, avait indiqué hier à Genève avoir des informations sur la mort de 22 migrants en Libye, mais elle attribuait leur décès à un échange de tirs entre les passeurs. Au Burkina Faso, cible de plusieurs attaques djihadistes dans le nord de son territoire, interdiction de la circulation nocturne de tout véhicule sur la bande frontalière avec le Mali. C'est ce qu'annonce aujourd'hui le colonel Hyacinthe Yoda, gouverneur de la zone. La circulation des véhicules à quatre roues, des motos à deux roues, des tricycles et des vélos est formellement interdite tous les jours de 17h du soir à 6h du matin dans la bande comprise entre la frontière du Mali au nord et la ligne délimitée par les localités suivantes: Baraboulé, Nassoumbou, Koutoukou, Déou, Oursi et Mankoy, a souligné le colonel Yoda. Seules les ambulances munies de laissez-passer pourront circuler. Nassoumbou a été le théâtre en décembre d'un raid meurtrier revendiqué par le groupe Ansarul Islam qui a coûté la vie à 12 soldats burkinabés. En Côte d'Ivoire, les fonctionnaires, dans l'attente d'une réponse du gouvernement sur les arriérés de salaire, la plateforme nationale des syndicats des organisations professionnelles du secteur public qui a rencontré hier le ministre ivoirien de la fonction publique n'exclut pas la grève, mais privilégie pour le moment les négociations. Les explications de Théodore Nianiazadi, président de cette plateforme des syndicats du secteur public.
Aujourd'hui, les fonctionnaires sont déterminés, mobilisés et souhaitent, n'est-ce pas, que le gouvernement fasse un geste. Et nous avons bien peur que si rien n'est fait, on soit amené à être devant une situation encore de crise. Nous avons une assemblée générale le 10 pour faire le point des négociations à nos camarades qui sont impatients. Au bout d'un mois de 13 qu'ils ont accordé au gouvernement. Donc c'est à l'issue de cette Assemblée générale que nous pourrons dégager des perspectives. Et une grève ne s'initie pas du jour au lendemain. Bien entendu, il faut un préavis qui donne un délai. Nous avons confiance au gouvernement dans sa capacité à régler nos problèmes. Et c'est pourquoi nous nous posons nos problèmes. Donc nous sommes optimistes que le gouvernement fera un geste pour que le front social s'apaise et que nous allions, n'est-ce pas, dans la sérénité au règlement de nos problèmes, de nos préoccupations, que le pays puisse, n'est-ce pas, avancer.
Théodore Nyanyazadi, président de la plateforme nationale des syndicats des organisations professionnelles du secteur public.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
RDC, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Zeid Raad al-Hussein, a demandé aujourd'hui l'établissement d'une commission d'enquête sur les violences contre les civils dans le pays. À son avis, il existe des allégations crédibles de violations massives des droits de l'homme dans les provinces du Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental et Lomami, notamment dans le cas des personnes prises pour cible par des soldats pour leur affiliation supposée à une milice locale. Le Kasaï, rappelons-le, est le théâtre depuis septembre 2016 d'une rébellion provoquée par la mort lors d'une opération militaire d'un chef coutumier local, Kamuna Nsapu, entré en conflit avec le pouvoir central de Kinshasa. Retour à la Journée internationale de la femme, profil rare en Afrique, celui de la Sénégalaise Sophie Diouk, 36 ans et mère de 3 enfants. Elle est devenue la première femme conductrice de bus de transport en commun au Sénégal. Son portrait avec notre correspondant à Dakar, Sedina Abagueye.
Taille moyenne, teint noir et pleine d'assurance, Sophie Diouk a plus de 20 ans d'expérience dans le milieu de l'automobile.
J'ai toujours aimé la mécanique et les voitures. Au départ, j'étais mécanicienne, mais j'ai très tôt été attirée par le volant, car mes clients qui venaient au garage dépanner leurs voitures faisaient souvent appel à mes services pour leurs déplacements. Par la suite, ils m'ont incité à me reconvertir en chauffeur.
Au fil du temps, Sophie se détache de la mécanique pour tenter l'aventure dans le milieu des chauffeurs, largement dominé par les hommes.
J'ai conduit des poids lourds et toutes sortes de voitures avant de devenir chauffeur de taxi. Dans les rues de Dakar, je ne voyais que des hommes au volant des bus. Je me suis dit, pourquoi je ne pourrais pas devenir chauffeur de bus? Au début, certains me décourageaient en me disant qu'ils ne prennent pas de femmes. Mais malgré tout, j'ai toujours cru que je pouvais y arriver et aujourd'hui, j'y suis.
Sophie Diouk trône désormais au volant des imposants bus de Dakar Demdik. Face aux préjugés des clients, Sophie peut compter sur la confiance de sa direction. Momodou Siley Anne, responsable de la cellule de communication de la Société publique des transports, estime que seule la compétence compte.
Une communauté faite d'hommes et de femmes. Malheureusement, nous avons un métier qui est très orienté genre masculin. Pour ne pas perdre qui, mais voilà, les gens, les innovations sont en train de venir. Et la seule condition qu'on a posée sur la table, c'est qu'elle remplisse, qu'elle puisse avoir son permis de transport en commun et qu'elle ait les aptitudes techniques et les tests techniques qu'on a fait pour pouvoir être recrutée. C'était le seul critère. Maintenant, il y a un travail d'adaptation, c'est à elle de le faire, c'est à elle de prouver qu'elle a sa place parmi nous.
La population et les usagers des bus de transport en commun devront dorénavant s'habituer à la junte féminine. La société Dakar Demdik, qui gère les transports publics, compte renforcer ses effectifs avec un contingent de femmes receveuses pour répondre aux défis de l'équilibre social. Seydina Abagueye, à Dakar, pour la Voix de l'Amérique.
Actualité américaine, Wikileaks révèle un supposé programme de piratage mis au point par la CIA. D'après le site créé par l'Australien Julian Assange, l'agence de renseignement américaine peut transformer votre télévision en appareil d'écoute, contourner les applications de cryptage et peut-être même aussi contrôler votre véhicule. Précision de Morgan Guiriec.
Les documents publiés hier par Wikileaks sont présentés comme internes à la CIA. Wikileaks en a fait paraître près de 9000, estimant qu'il s'agissait de la plus importante publication de matériel secret du renseignement jamais réalisée. De son côté, la CIA n'a ni confirmé ni démenti l'authenticité de ces documents, ni commenté leur contenu. Ces documents montreraient que l'agence de renseignement a élaboré plus d'un millier de programmes malveillants, virus, cheval de Troie et autres logiciels pouvant infiltrer et prendre le contrôle d'appareils électroniques. Smartphones, télévisions connectées ou encore logiciels populaires peuvent être transformés en appareils d'écoute à l'insu de leur utilisateur, affirme Wikileaks, citant également la possibilité de prendre le contrôle de véhicules grâce à leurs instruments électroniques.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.